Donc, ce texte met en pleine lumière ce que nous avons largement étudié chez Butler, c'est-à-dire que il y a une profonde indétermination du monde humain. Il y a une indifférenciation du monde humain. Et que donc, les droits de l'homme sont un des vecteurs les plus importants aujourd'hui de modification de l'anthropologie. Parce que finalement, au titre des droits de l'homme, je vais pouvoir exiger de la puissance publique la reconnaissance de manière de vivre, mais comme ça va m'être octroyé au titre des droits de l'homme, ça contribue à déterminer ce qu'est l'homme, mais en fait, mes droits, ils vont déterminer ma manière de vivre. Mais comme on a déjà octroyé des droits opposés à des gens qui vivent contrairement à moi, bah finalement, si vous mettez tout ça dans la même assiette, le résultat des courses, c'est que ça fait de l'indétermination. Pourquoi ? Parce que finalement, comme c'est contradictoire, on est obligé de se dire, tout ça c'est relatif aux personnes. Et tant que on préserve l'égalité formelle, purement formelle, l'égalité des droits formellement, ben finalement, on peut à peu près vivre comme on l'entend. Et donc, finalement, c'est un des vecteurs d'indifférenciation de l'être humain, donc une accentuation de la perte des finalités, forcément. L'idée même d'un ordre humain d'inclination naturelle ici, évidemment, apparaît comme impossible. Et donc ici, le modèle de l'État libéral du 18e demeure, c'est-à-dire que l'État, il est quand même là pour garantir les droits, et non seulement pour les garantir, mais pour les respecter et les promouvoir. Et donc, la promotion des droits de l'homme sous ce rapport-là, effectuée par l'État et par les grands vecteurs de l'État, la justice, l'école, etc., contribue à développer une conception indifférenciée de l'être humain. Oui. Une conception indifférenciée de l'être humain. Et du coup, la valeur centrale de tout le dispositif, évidemment, ça ne peut être que la tolérance formelle des diverses versions possibles. Oui. D'ailleurs, l'acte vraiment impardonnable le père Nicolas Butet, ce matin, parlait de l'association qui était vraiment impardonnable. Bon, là, l'acte vraiment impardonnable dans cette optique, c'est plus l'association, la Trinité pour les musulmans, c'est l'intolérance. Parce que celui qui est intolérant, c'est justement celui qui refuse les règles du jeu, celui qui refuse de valider le principe commun qui est l'indétermination, c'est-à-dire celui qui prétend qu'il y a une certaine objectivité de l'ordre humain. La seule objectivité de l'ordre humain qui est énonçable, de manière tolérante, c'est dire que tous les individus sont des êtres libres, égaux, ayant des droits qu'ils peuvent revendiquer. Mais une fois que vous avez dit ça, vous avez à la fois dit quelque chose, et en même temps, vous avez déterminé une sorte de structure vide à l'intérieur de laquelle vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Être articulé avec la coexistence pacifique. Donc on voit bien ici que la théorie du genre, en introduisant finalement le trouble dans la sexualité humaine, dans les représentations de la sexualité humaine, d'une certaine manière, est en grande harmonie avec le processus d'indétermination du monde humain. Voyez, et contribue à ce processus. Et donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'au nom des droits de l'homme, il y ait par exemple de la lutte contre l'homophobie qui en fait concrètement contribue au développement et à l'extension de la théorie du genre, puisque en fait les deux vont dans le même sens, qui est justement d'accentuer, enfin de déployer un peu plus ce fonds d'indétermination. Et en fait, ça tombe assez bien qu'il y ait une indétermination. Pourquoi ? Parce que cette indétermination peut être vue comme un matériau disponible pour faire de sa vie une œuvre d'art, pour créer à partir de ce matériau relativement indéterminé différentes figures, différentes esthétiques de soi qui n'empêcheront évidemment pas autrui d'avoir d'autres esthétiques et d'autres œuvres d'art. Hein. Dans un musée, une œuvre d'art n'empêche pas l'autre œuvre d'art d'être ce qu'elle est. Hein. À la limite, elle coexiste très bien, pas de problème. Donc, ça reste évidemment dans une expression de pluralité. Mais évidemment, ici, le présupposé, c'est évidemment que la mesure ultime est cette créativité de l'être humain, mais d'un être humain qui ne préexiste pas, d'une certaine manière, à sa propre production, à sa propre mise en forme. Alors, pour conclure, dans la minute qui me reste, je vous incite fortement à lire le dernier texte de Vincent Descombes, qui pose une question, à mon sens, essentielle, que nous avons essayé d'aborder, je crois, hier un peu. Tout est-il politique ? Et il me semble que l'intérêt du texte de Descombes, c'est justement de montrer qu'il y a deux manières de dire tout est politique. Il y a une manière, finalement, totalitaire, hein, comme dans les régimes nazis ou communistes, l'État total, donc si l'État est total, bah, il doit prendre en charge la totalité de la vie humaine en raison de motifs idéologiques. Mais il y a une autre manière de comprendre que tout est politique, c'est celle dont j'ai parlé au début hier avec le texte d'Aristote, c'est que il y a des choses qui en elles-mêmes ont une consistance, mais qui ont une dimension politique parce que la politique repose dessus. Et que donc ici, on peut dire que la sexualité a une dimension politique, que la sexualité humaine, que le corps sexué, que l'amour humain, que le sentiment amoureux a une dimension politique. Ce qui ne veut pas dire que c'est à la chose politique de mesurer et d'ordonner ma vie personnelle et ma vie amoureuse, mais de reconnaître que justement cet ordre humain, parce qu'il est vraiment humain, il est pré-politique, mais justement parce qu'il est pré-politique, pré au sens d'antérieur, hein, il a une antériorité par rapport à la vie sociale et politique, et que du coup, la société doit le reconnaître. Et que cette reconnaissance politique d'un ordre humain pré-politique est au cœur de la stabilité des sociétés. Par exemple, et pour finir, une reconnaissance politique d'un ordre humain pré-politique, c'est par exemple le mariage. La reconnaissance que, parce que le mariage, sous un certain rapport, c'est une institution politique, hein, c'est lié au droit, au code civil, à des lois, etc. Mais cette reconnaissance politique porte sur une réalité qui en elle-même n'est pas politique. Parce que l'amour d'un homme et d'une femme, en tant que tel, c'est pas politique. Mais justement, ça a aussi une dimension politique, parce que justement, c'est ce qui va permettre d'animer et de faire vivre et de déployer la société politique. Donc ce texte de Descombes, je trouve, permet de situer à sa juste place la critique de la théorie du genre, parce que la théorie du genre a bien vu l'importance politique de la sexualité. Mais finalement, elle a fini par conclure, et elle repose sur l'idée que tout dans la sexualité, justement, est politique, est conditionné politiquement par les fameuses pratiques discursives. Or, en fait, il faut à la fois tenir qu'il y a un ordre humain qui a une consistance pré-politique, mais que ce n'est pas pour cela qu'elle n'a pas d'influence sur la vie politique, et que donc la sphère politique a absolument le devoir de la reconnaître, non pas de la créer, mais non pas de la produire, mais de la reconnaître et d'une certaine manière de contribuer à son juste équilibre. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et bonne fin d'année.